France Bleu Gard Lozère, famille mode d'emploi.
Famille mode d'emploi, une nouvelle édition ce soir. Alors on va parler de la succion ce soir, on va parler de la célèbre tétine et puis également de l'allaitement. Alors avec nous c'est Nicole Mieurieux qui est à nos côtés, bonsoir.
Bonsoir.
Pédiatre dentiste, hein, oui. Donc pour les enfants. Alors on va peut-être s'adresser aux mamans qui ont décidé d'allaiter ce soir, elles sont enceintes et elles veulent allaiter. Quel est le rôle de l'allaitement sur la formation de la mâchoire des futurs enfants ?
Sur la formation de la mâchoire, alors l'allaitement développe l'avancée de la mâchoire, l'avancée de la mandibule, sa propulsion, essentiellement. Il y a un facteur génétique pour tous, mais les enfants allaités vont avoir une mâchoire plus développée vers l'avant, mieux développée, des contacts dento-dentaires entre les deux maxillaires qui seront meilleurs.
D'accord, et donc c'est la même chose avec la tétine après, quand l'enfant va grandir ?
Non. Non, parce que la fonction linguale dans la succion n'est pas la même au sein et avec une tétine en bouche.
Pareil pour le pouce ?
Alors le pouce, c'est différent. Mieux vaut un pouce qu'une tétine.
Ah bon ? C'est vrai qu'on dit toujours, arrête de sucer ton pouce ou la tétine, tes dents vont être tout en avant. C'est ce qu'on disait, on a toujours entendu ça.
Oui, parce que la pression du pouce sur les dents de devant, les incisives, va effectivement déformer l'os. Mais c'est très vite rattrapable. La tétine, elle agit sur la position de la langue en la maintenant en position basse. Ce qui a des incidences sur la posture linguale, mais aussi sur la posture de l'enfant.
Donc c'est délicat ça pour après pour le langage et pour tout ça.
Exactement. Il faut savoir que l'enfant entre dans le langage entre 2 et 3 ans, au moment où la mastication devient mature et où toutes ses dents de lait sont en place. Donc tout dans le cerveau est préparé d'un point de vue neurologique pour que ses fonctions se mettent en place. Et le langage risque d'être retardé par une langue mal positionnée.
Oh là là, alors c'est quoi le conseil ?
Alors, si une maman souhaite donner la tétine, eh bien, il faut être attentive au moment vers 3 mois où l'enfant la rejette de lui-même. Si on ne le sait pas, on risque de passer à côté. Mais un bébé est tout à fait capable de refuser une tétine alors qu'il n'a pas le langage, il va la rejeter avec sa langue.
Le bébé le fait systématiquement,
ça ? Le bébé le fait très souvent, et ça correspond à un âge où la croissance des cervicales prépare le langage, déjà à 3 mois.
Donc il faut faire attention à ce signe. Et on fait quoi alors si l'enfant rejette sa tétine, on arrête ?
On peut arrêter, un bébé n'a plus besoin de téter de la même manière, autant. On continue d'allaiter si on l'allaite, le téton de la maman est physiologique. Après, quand les parents n'ont pas le choix, moi, ce que je conseille aux jeunes parents, c'est de cesser autour des 1 an.
La tétine ?
Oui, en tout cas avant 1 an et demi. La tétine.
D'accord.
Parce qu'après, il y aura des incidences sur la déglutition. Et ce sont des enfants qui devront faire, à partir de 4 ans, des rééducations de la déglutition.
Oh là là, c'est vrai qu'on en voit beaucoup des enfants. Hein. Vous devez en voir beaucoup, vous, médecins, hein, des enfants qui ont la tétine pendant longtemps.
Hein, pendant longtemps.
Jusqu'à l'école, presque, même pendant les premières années d'école.
Hein. Exactement, oui.
Donc le conseil, c'est d'arrêter bien avant.
D'arrêter bien avant, c'est beaucoup plus facile parce que ça n'est pas encore devenu une mauvaise habitude. C'est-à-dire que pour l'enfant, c'est plus difficile, plus c'est tardif, plus c'est difficile d'arrêter. D'autant plus que la tétine favorise la sécrétion d'endorphines, c'est-à-dire de calmants naturels.
Ah, voilà.
Et donc c'est pour cela aussi que les enfants s'endorment plus facilement. Mais plus on va la lui laisser en bouche et plus il va avoir besoin de cette dépendance aux endorphines. Il vaut mieux lui raconter une histoire. Hein, sur les genoux, dans les bras.
Et il va s'endormir.
Et il s'endormira. Je vais mettre une petite musique.
C'est Nicole Mieurieux qui est à nos côtés ce soir. Donc elle est pédiatre, dentiste, près du Régal, le réseau gardois de l'allaitement. Si vous voulez intervenir à nous dire comment vous avez fait, vous, avec cette fameuse tétine, si vous avez allaité, quelles ont été les conséquences, si ça s'est bien passé ou si on parle pas forcément que de problèmes, eh bien vous nous appelez, cette émission est la vôtre, 04 66 21 36 37. On fait à nouveau un point sur le trafic, sur la circulation à Nîmes, parce qu'il y a du monde ce soir. Rue Vincent Feita, si vous partez en direction d'Uzès, la rue Pitot aussi dans le même secteur. Il y a du trafic sur le Talabo, la rue Séguier, il y a du monde du côté de la place Séverine, en remontant sur les quais de la Fontaine, la route de Sauve, pas mal encombrée aussi, la route de Rouquayrol, la route de Saint-Gilles et la départementale 42 au niveau de l'échangeur de Nîmes-Centre.
pas la fille qui me rend si dure et si tendre, qui sait me parler quand je suis barré, mais je veux rien entendre. Quand j'ai le cœur sourd, quand j'ai le cœur lourd, de pluie de peine, elle aime tremper dans de l'acier. Quand je suis paumé, que tout m'enchaîne. J'ai parfois l'âme prise dans des filets qui me tourmentent. J'ai parfois l'âme grise. Et si ce soir tu me demandes comment ça va? À toi l'ami, le seul homme qui m'a tenu la main. Quand tous les jours je m'en faisais beau, mes lendemains. Toi dont je sais que même blessé, t'es toujours là pour me porter, pour abréger ma peine jusqu'à ce que je sois léger. J'ai parfois l'âme en crise. À ce que j'ai parfois négligé, peut-être un peu libre, pour pas déranger, moi le naufragé, sur mon bateau ivre. J'ai pas de bouée, pas de feu de détresse, je suis pas doué pour les caresses. Mais si jamais vous me demandez quand tout me blesse, comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète, je vous répondrai ça va, ça va, ça va comme si, comme ça.
C'était Claudio Capéo sur France Bleu Gard-Lozère.
Vos témoignages dans Famille Mode Emploi sur France Bleu Gard-Lozère 04 66 21 36 37.
Famille Mode Emploi ce soir avec Nicole Millerieux du Régal et les pédiatres dentistes. Le Régal, c'est le réseau gardois de l'allaitement. Alors on parle de la succion, on parle de la tétine, on parle du pouce et on parle alors de l'allaitement ce soir. Alors dites-nous, cette durée de l'allaitement, c'est quoi la durée de l'allaitement ?
Alors, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, préconise 2 ans d'allaitement.
Ouais.
Ça n'est pas pour rien, parce qu'il faut 18 mois pour qu'une mâchoire se développe. D'après les recherches que j'ai publiées sur le développement du crâne de l'enfant, dans la revue d'orthodontie clinique, grâce aux travaux également du professeur Delaire, qui est un vieux chercheur en maxillofacial, vieux dans le sens très positif, il a 94 ans, un génie, et dont j'ai utilisé les tracés, l'allaitement à partir de 4 mois d'allaitement développe la base du crâne. Et ceci a une influence sur la position de la mâchoire inférieure. Mais nous ne sommes pas tous égaux devant la génétique. Certains enfants, dans mon étude, à 4 mois, avaient une base de crâne développée et des mâchoires en place. Et pour d'autres, il fallait 9 mois à 18 mois d'allaitement pour obtenir le même résultat.
Et ceux qui n'allaitent pas alors ?
Alors, pour ceux qui n'allaitent pas, je conseille de donner un biberon avec une véritable tétine physiologique. Également, de positionner le biberon à la manière de l'allaitement. Il faudrait voir un petit veau téter sa mère et vous verriez que le veau propulse sa tête complètement vers le haut, à la verticale. Et en fait, il faudrait donner le biberon sans pencher le biberon à la verticale pour que l'enfant fasse un effort. d'une part, et que sa langue se positionne bien en haut.
Que son visage aussi soit relevé comme ça ?
Oui, il faut qu'il y ait une action sur les cervicales. L'enfant qui tète, il fait une le sein,
oui,
fait une véritable gymnastique. Il faut savoir qu'il y a une coordination musculaire entre différentes fonctions que sont la respiration, la déglutition, la succion, la position de la langue. Tout ça a été mis en évidence par les travaux des chercheurs australiens,
oui,
par échographie. Et donc l'enfant, qui est un nouveau-né, va développer une force orofaciale extraordinaire pour se nourrir, pour survivre. Et donc il faudrait qu'au biberon,
ce soit pareil. Et ça l'est pas en fait.
Non, parce que très souvent, les parents vont ouvrir le biberon, la tétine, au maximum. Donc en fait,
pour faciliter,
et le lait va couler trop facilement. Il faut que l'enfant fasse un effort musculaire. Donc déjà, garder une ouverture minimale. Cette force musculaire, elle doit durer jusqu'à la fin de notre vie.
Sur le biberon, il y a quoi comme position ? Il y en a trois, je crois. Trois. Donc on se met sur le 1 ?
Le 1.
Le 1, c'est suffisant.
Oui. Après, l'enfant, une fois qu'il va avoir, au bout de 15 jours, développé sa force, il va téter plus fortement, de lui-même, comme au sein.
D'accord. Donc au 1, et puis alors le pencher, enfin les cervicales.
Essayez de donner le biberon le plus à la verticale possible et non pas en face de l'enfant de façon penchée.
C'est bien ces conseils-là, parce qu'on le fait pas ça. Hein.
Ça s'appelle une tétée orthostatique.
D'accord. Et les ancêtres le faisaient ?
Alors, ce sont des connaissances qui datent des années 50 et même d'avant-guerre. Des dentistes fonctionnalistes des années 50 avant l'avènement de l'orthodontie américaine après-guerre.
Et ça s'est perdu, cette pratique ?
Ça s'est perdu, oui, avec l'arrivée des méthodes américaines.
Et vous nous avez parlé de la tétine tout à l'heure, vous avez dit vers 3 mois on arrête la tétine, hein, c'est ça ?
Ce serait l'idéal. Si l'enfant la rejette. Après, un an et demi, c'est vraiment un maximum, afin qu'il n'y ait pas d'effet délétère sur la déglutition.
Mais est-ce qu'il ne va pas remplacer cette tétine systématiquement par le pouce, par exemple ?
Eh bien, s'il le fait, c'est qu'il a besoin de téter. Et pour moi, le pouce n'est pas nocif autant que la tétine, car la tétine va avoir une action sur la position de la langue, mais aussi sur les deux articulations de la mâchoire, qui soutient la langue comme une balançoire, en fait. Hein. Alors que au pouce, non. L'enfant fait un effort pour téter, la langue est positionnée vers le haut, et il est toujours plus facile de faire cesser un pouce à 5 ans, à l'âge de la raison, qu'une tétine.
Vous n'êtes pas trop pour la tétine ?
Absolument pas,
oui,
de par ma spécialité en maxillofaciale.
Voilà, ça c'est le message. C'est le message de Nicole Mieurieux du Régal, hein, le réseau Gardois de l'allaitement. Elle reste avec nous encore quelques minutes. Et vous, si vous voulez intervenir, hein, si vous voulez nous dire comment vous faites avec votre petit ou comment vous avez fait avec vos enfants quand ils étaient petits, vous êtes les bienvenus. 04 66 21 36 37. Silence, c'était le groupe Dépêche Mode.
France Bleu Gard-Lozère, Famille Mode d'Emploi.
La succion est au cœur de notre émission Famille Mode d'Emploi ce mardi avec Nicole Mieurieux. Elle est pédiatre dentiste du réseau Régal. C'est le réseau gardois de l'allaitement. Alors, dites-nous, on a parlé de cette succion, on a parlé du pouce tout à l'heure. Quand on fait les échographies, quand on est enceinte, on voit le bébé sucer son pouce quand il est dans le ventre?
Oui, effectivement.
Donc c'est une chose naturelle?
Tout à fait. Et pour ma part, en tant que fonctionnaliste, je pense que ces enfants qui sucent le pouce, c'est parce qu'ils en ont besoin. On dit que la fonction crée la forme. Et la fonction de succion va créer la forme du crâne. L'enfant qui tète son pouce, il est fort possible qu'un de ses deux parents soit n'ait pas été allaité, soit qu'il soit porteur lui-même d'un trouble orthodontique avec une mâchoire en arrière. Et donc ce sera génétique. Et donc il y a une compensation physiologique qui se fait naturellement. Donc il ne faut surtout pas empêcher un bébé qui suce son pouce dans un intra-utéreux de sucer.
Mais oui, et c'est vrai que sucer son pouce, alors l'enfant peut le sucer dans le ventre de sa mère, après il le suce quand il est enfant, et parfois il le suce toute sa vie en fait. Parce que moi j'ai vu une jeune femme d'une trentaine d'années, un soir fatiguée, qui tournait ses cheveux et qui suçait son pouce. C'est quoi, c'est un geste rassurant qu'on garde après, qu'on peut garder en tout cas?
Oui, et là quand on tourne ses cheveux c'est pour s'endormir en fait, il y a également une sécrétion d'endorphine qui est produite à ce moment-là, et par la succion aussi. Donc c'est pour se rassurer. Et bon, ce sont des adultes qui ont gardé une part de leur enfance.
C'est ça, c'est ça. Et vous, alors, vous me disiez une chose incroyable, hein, c'est que vous avez arrêté de sucer votre pouce à l'âge de 5 ans, et vous vous en rappelez encore. Comment ça se fait?
Je pense que c'est parce que mon père est intervenu et que sa figure paternelle était importante. Un soir, mon père m'a dit, bon, tu es assez grande maintenant, tu devrais cesser de sucer ton pouce. De téter ton pouce. Et donc, j'ai pris ça très au sérieux, venant de la part de mon père. Il m'a indiqué, comme ça, spontanément, que je n'avais qu'à téter mon coin de traversin, ma housse de traversin.
C'était moins rigolo.
Et c'était beaucoup moins agréable.
Bah oui.
C'est ce que je me suis dit, et j'ai cessé de sucer mon pouce ce soir-là. Et ça a été assez fort pour que je m'en souvienne. Et je pense que c'est la figure paternelle qui a fait son effet.
Ça n'est pas la même chose que si c'était la maman?
C'est beaucoup plus difficile pour une maman de faire cesser des suctions. C'est quand même un sevrage. C'est la maman qui allait ou qui materne, même si nous sommes dans une société où les papas paternent. Mais justement, le père a un rôle de séparateur par rapport à son enfant. Et là, il doit intervenir avec confiance en lui-même pour faire cesser les suctions au-delà de l'âge.
Pourriez nous dire que c'est un conseil que vous donnez aux papas qui peuvent nous écouter maintenant?
Oui.
C'est plutôt leur rôle?
Oui, parce que c'est difficile pour la maman. Donc, ils peuvent accompagner leur compagne de cette manière-là. Et je dirais même, quand il s'agit de faire cesser une tétine, tardivement, eh bien, l'enfant risque de pleurer une semaine, la nuit. Et c'est très angoissant pour une mère. Ça peut être culpabilisant même. Et donc, je conseille aux jeunes papas, parmi mes patients, de se lever à la place de la mère pendant une semaine ou quelques jours et se terminer très vite. Ils ne vont pas projeter leur angoisse sur leur enfant. Vous savez, le petit, il est en fusion avec sa maman, il perçoit tout, intuitivement et sans parole. Donc, après, il se joue des échanges psychologiques, hein, entre l'angoisse de la mère, l'angoisse de séparation. Le sevrage, c'est une réelle séparation. Que ce soit au sein ou au biberon.
Donc, il vaut mieux que ce soit le papa
que le papa intervienne.
Qui intervienne, et la preuve, ça marche et on s'en souvient longtemps après. C'est ça qui est bien. Donc,
exactement.
messieurs, si vous écoutez la radio, c'était le conseil, en tout cas, ce soir de Nicole Mieurieux du Régal, le réseau gardois de l'allaitement. Elle reste encore avec nous quelques minutes. Et on refait un point sur le trafic, évidemment, hein, parce que vous rentrez chez vous et on vous conseille, on fait la route avec vous. Donc au niveau de l'échangeur de Nîmes Centre, il y a encore du monde. La départementale 135, c'est le chemin des canaux, il y a du monde. Et en ville active, pour rejoindre le rond-point du CHU de Carrémont, là aussi pas mal de trafic ce soir. On fait la route ensemble, vous consultez l'état du trafic sur francebleu.fr. France Bleu.
Le meilleur des quatre sur France Bleu Gard-Lozère. Cette semaine, un cadeau pour vous faire du bien. France Bleu Gard-Lozère vous invite entre mer et montagne à Bagnoul-sur-Mer. Côté Thalasso, l'hôtel, le restaurant, les soins et le soleil catalan. À vous d'être le meilleur des quatre et inscrivez-vous tout de suite au 04 66 21 36 37.
Famille Mode d'emploi avec Réussite Gare, votre spécialiste du soutien scolaire et des cours particuliers à domicile dans le Gard. Plus d'infos sur réussite-coaching.com.
Faire cesser les suspicions. C'est Nicole Millereux qui est avec nous ce soir du Régal, le réseau gardois de l'allaitement. C'est la succion qui est au cœur de cette émission ce soir. Alors Nicole, vous nous avez parlé donc de l'allaitement, on a parlé de la tétine, on a parlé du pouce. Et alors le doudou, parce que là quand vous étiez petite, on vous a dit après tu lâches le pouce et tu suces le coin de ton oreiller. Les enfants qui têtent leur doudou ou un chiffon, vous savez un tissu, oui, là. C'est pas très bon ça, si ?
Alors bon. L'enfant s'immunise, hein, avec ses doudous qui traînent partout. Mais en fait, ce qui est embêtant, c'est que très souvent, la succion du doudou est associée à un tic de succion. Il y a des enfants qui se caressent la lunette, par exemple.
Vrai,
ouais. Oui. Chacun a son petit tic, et en fait, c'est très difficile de faire cesser une succion du doudou sans faire cesser ce tic de succion. Donc, il faut d'abord passer par la suppression du tic. Voilà. Et c'est essayer de... Si un enfant prend son doudou, il vaudrait mieux que lui faire prendre son pouce. Parce que c'est très difficile de faire cesser une succion de doudou. D'expérience, je peux vous le dire. Dans mon cabinet, quand je fais cesser des succions de doudou, j'utilise l'art thérapie, donc un conte pour les tout-petits, qui du coup vont donner leur doudou à mon petit lapin bleu, qui est une peluche. Et là, le transfert se fait très bien, mais ce sont souvent des enfants qui ont plus de 4 ans. Et là, il va falloir faire une rééducation de la déglutition ensuite, spécialisée en maxillofaciale. Donc ça a quand même des incidences. Et comme le doudou a une connotation extrêmement affective, c'est un objet de transfert, c'est très très difficile de faire cesser cette succion. Parce qu'il faut que l'enfant soit prêt à se séparer de son doudou également à ces âges-là.
Il le fait naturellement, ça, parce que l'enfant, quand il a un doudou, il peut le mettre contre lui, mais de le sucer, il le fait. Ils sucent pas tous leur doudou,
non,
d'ailleurs.
Non, mais ça vient naturellement, alors pour X raison.
Ah, puis c'est ce doudou qui sera là au moment de la première rentrée des classes, et ça a cette fonction de rassurer, c'est ça, hein.
Tout à fait. Et bon, il y a l'odeur du doudou aussi, hein, donc qui est importante pour l'enfant.
On sait bien, ouais, qu'il faut pas le laver, et l'enfant n'aime pas ça. Oui, oui, oui. Donc en fait, il faut éviter quand même la succion du doudou, quand même. Hein. Donc dans tout ce que vous nous dites là, la tétine pas trop, le doudou pas trop, c'est plus le pouce alors.
Le si pouce on, oui. C'est, va avoir des incidences sur sur l'os, mais c'est très rattrapable ensuite. Et puis si on arrête à 5-6 ans, ça ne se déforme pas vraiment. Par contre. La tétine, il faudra faire une rééducation si elle est restée 3 ans en bouche. Une rééducation spécialisée en maxillofaciale. Et il y a peu d'orthophonistes spécialisés. Ce sont des kinésithérapeutes qui font la rééducation et ne prennent pas les enfants à 4 ans. Donc, il va y avoir des troubles du langage qui vont s'installer, qui ne seront pas toujours audibles, mais qui sont visibles d'un point de vue moteur sur la mobilité de la langue. Et donc, avant 6 ans, c'est-à-dire avant l'apprentissage de la lecture, il faudrait vraiment que la langue soit en bonne position.
Donc la tétine, il faut l'arrêter le plus tôt possible.
Avant 2 ans, avant la maturation de la mastication. Elle a aussi des effets sur la maturation de la mastication.
Bon, et puis messieurs, vous avez entendu les papas, vous avez un rôle à jouer important là, dans cette histoire-là. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas on a appris plein de choses, merci d'avoir été là. Et on vous souhaite une belle soirée, à bientôt, au revoir. C'était Nicole Millereux qui était avec nous ce soir. Et puis le réseau, le régal, hein, vous pouvez avoir toutes les informations sur internet évidemment. Demain on va parler de l'addict live, les petites addictions qui entretiennent les saveurs de la vie. Nous serons avec Zahour El Galta, elle est psychologue, demain.